Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec l'écrivain Francis Bergeron.
Bonjour.
Bonjour Francis Bergeron, vous venez, j'allais dire de publier, mais en fait je voulais plutôt dire republier, votre fameux dictionnaire commenté de livres politiquement incorrects. Il y avait une édition qui était sortie, j'ose pas dire la date, en 2006, hein, voilà, c'était ça.
Oh, même avant ça, la première édition date de 1993 en fait.
Voilà, et puis en plus régulièrement.
J'avais fait ce travail à l'époque à partir de ma bibliothèque, je dirais, et puis de mes souvenirs de lecture sur une trentaine d'années. L'idée a été reprise par un éditeur qui a étoffé l'ouvrage et l'a réactualisé en 2006, effectivement. Et il vient d'être réédité à nouveau parce que c'est un livre qui est constamment demandé par les gens qui aiment la lecture, mais aussi par les libraires, par les collectionneurs de livres anciens. Voilà, donc c'est les rats de bibliothèque, comme je dis. Il y a vraiment un public pour ce livre, pour ce genre de livre.
Et en plus, c'est un gros succès de librairie. Hein. Ça, c'est, à chaque fois, c'est un gros succès. La nouvelle édition marche aussi très bien. Alors Francis Bergeron, je voulais commencer par le début. Qu'est-ce que le politiquement incorrect ? Est-ce que le politiquement incorrect change au fil des époques ? Le politiquement incorrect du début du XXe siècle n'est pas le même que celui du milieu du XXe siècle, n'est pas le même que celui de la fin du XXe siècle et celui du XXIe siècle.
Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, quand on prend les premiers ouvrages de ce dictionnaire, le tout premier ouvrage, c'est le discours sur l'universalité de la langue française d'Antoine de Rivarol, paru en 1784. Enfin, selon mes critères, lorsqu'il est paru, ce livre n'était absolument pas un livre politiquement incorrect. Rivarol était un homme reconnu, un intellectuel reconnu, et puis c'était l'époque où on disait le monde français. On parlait du monde français comme à l'époque romaine, on parlait du monde romain. C'était presque une banalité que de parler de l'universalité de la langue française. Aujourd'hui, le même livre a d'autres connotations parce qu'il y a eu la Révolution française quelques années plus tard, après la parution de ce livre, parce qu'Antoine de Rivarol a été du côté des contre-révolutionnaires. Et puis parce que la langue française aujourd'hui est attaquée énormément par les anglicismes, par tous les barbarismes du langage, par le wokisme, etc. Et donc ce livre-là a un côté un peu sulfureux quand on le lit à l'aune de ces délires, disons qui consiste à critiquer constamment, à faire l'autocritique de la France, de son passé, de sa langue, de son histoire. C'est un livre qui, de ce point de vue-là, est devenu aujourd'hui incorrect.
Alors justement, est-ce que le politiquement correct et le politiquement incorrect est marqué politiquement ou non ? Vous êtes, voilà, dans votre dictionnaire, sont plutôt des livres qui seraient catalogués à droite, mais est-ce que finalement, des intellectuels qui étaient dans des traditions anarchistes, libertaires, sont aussi, peuvent être aussi dans le politiquement incorrect ou l'ont été à une certaine époque ?
Oui, bien sûr. Mais comme vous l'avez dit au début de notre entretien, la notion de politiquement incorrect évolue dans le temps tel écrivain ou tel intellectuel qui, de son temps, était incorrect est devenu tout à fait admis et inversement. Je pense notamment à toute la production de ce qu'on appelait l'enfer dans les bibliothèques, c'est-à-dire les livres érotiques, pornographiques, etc. Aujourd'hui, c'est une banalité. On peut les commander, on peut les trouver partout, sur Internet, etc. Il y a très très peu de livres de ce genre-là qui sont interdits. Et je prends l'exemple notamment de la pédophilie. Dans les années 70 et 80, on faisait l'apologie d'ouvrages pédophiles dans les colonnes du journal Le Monde, dans les colonnes de Libération, Libération qui était le siège à l'époque, le siège du Front de Libération des Pédophiles. Donc ces livres-là, on pouvait les acheter, on pouvait les commander. C'était l'esprit de mai 68, je dirais, ou de l'après-mai 68. Or, aujourd'hui, Dieu soit loué d'ailleurs, aujourd'hui, ces livres-là sont devenus incorrects. Mais je dirais qu'il y a, l'incorrection qui est une forme de censure, mais il y a aussi l'incorrection, parfois, qui est méritée. Il est certain que faire l'apologie de crimes à l'égard d'enfants, c'est incorrect, mais ça sera toujours incorrect, et c'est tant mieux, hein, bien entendu.
Mais je vais prendre un autre exemple. Si je prends par exemple l'exemple de la culture woke, du wokisme, si moi, j'étais pas né, hein, mais voilà, si moi, en 1950, j'étais un défenseur de la culture woke, voilà, un initiateur, défenseur de la culture woke et du wokisme, en 1950, j'aurais été politiquement incorrect. Aujourd'hui, je serais politiquement correct.
Oui, alors aujourd'hui, oui, effectivement, aujourd'hui, cette position serait une position correcte, du moins dans l'université française et américaine, pas forcément en Hongrie ou dans d'autres pays.
Oui, je mais, parle de nos, voilà,
en tout cas,
en Occident,
oui, dans l'université française, c'est ou américaine, c'est correct. Mais en 1950, le wokisme ne pouvait pas exister puisque je dirais que tout le monde sur ces terrains-là, sur le terrain par exemple de la différenciation entre les hommes et les femmes, tout le monde avait le même discours. Le wokisme est de ce point de vue-là une originalité ou une monstruosité selon les points de vue. Mais il n'y avait pas de débat sur ces questions-là. Vous aviez dans les écoles publiques comme chez les curés, vous aviez les classes pour les garçons, les classes pour les filles. Aujourd'hui, on nous dirait c'est un rigorisme ou un passéisme incroyable de distinguer les garçons et les filles. Le wokisme, c'est justement le fait de c'est quelque chose d'encore plus extraordinaire, c'est de dire mais il y a ni garçons ni filles, il y a uniquement des êtres et ces êtres choisissent librement en quelque sorte s'ils seront garçons ou filles, ce qui est une absurdité totale. Donc c'est cette comparaison, enfin plutôt ce raisonnement sur le wokisme, c'est pas forcément le bon parce que c'est une idéologie effectivement destructrice du passé et de la logique et de la science même, mais elle n'est pas elle n'aurait pas pu être correcte en 1950 ou en 1940,
oui, puisque à l'époque,
mais elle n'existait pas.
Parce que ça n'existait
pas. Elle ne pouvait pas exister.
Voilà. Oui. Voilà. C'est comme si je disais que la Terre est plate. Je ne vais pas me qualifier de politiquement incorrect en disant que la Terre est plate parce que ça n'existe pas.
Oui, c'est ça. Voilà. Là, c'est du.
Alors, si je prends l'exemple, voilà, Francis Bergeron, des libertaires des années 60 ou des anarchistes, de culture anarchiste, oui. Là, elle était vraiment politiquement incorrecte à l'époque.
Elle était politiquement incorrecte, pas vraiment, puisque elle était au contraire, elle était vraiment dans l'air du temps. Alors, il y avait les conservateurs. Qui se battaient pour conserver un certain nombre les traditions, disons pour faire simple, et la patrie, l'Église, enfin c'était l'autel et l'épée et l'autel. Et puis, mais de l'autre côté, vous aviez donc l'esprit de mai 68, et cet esprit de mai 68 était parfaitement admis et je dirais même était commencé à devenir très envahissant, à dominer un petit peu le.
Elle était dans l'air du temps, elle était minoritaire et elle était envahissante. On est d'accord.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire alors qu'aujourd'hui, ce qui est politiquement incorrect, c'était politiquement incorrect il y a 10 ans, cette fois-ci plus dans votre tendance idéologique, commence à être aussi dans l'air du temps et envahissante?
Alors, non, mais là, ça, c'est une bonne question, en ce sens que, effectivement, on peut espérer, enfin, de mon point de vue, on peut espérer que les positions exposées par je sais pas moi, par un Patrick Buisson, par dans son livre, dans son dernier livre, par un Philippe de Villiers ou des gens comme ça, on peut espérer qu'elles seront banalisées dans quelques dizaines d'années. Mais je ne vois pas encore changer l'éducation nationale sur ces terrains-là. Si on prend l'exemple, par exemple, l'histoire de la guerre de Vendée. L'histoire de la guerre de Vendée, c'était quelque chose qui n'existait pas ou qui était nié ou qui n'était pas enseigné. Il y avait peu de publications sur la question, ou alors des publications érudites, ou des publications limitées à un tout petit monde d'anciens monarchistes, disons. Aujourd'hui, ces questions-là, cette histoire des guerres de Vendée, a donné lieu à beaucoup de publications. Mais on n'en est pas encore, loin s'en faut, à un renversement de tendance ou un renversement de l'histoire au point de qualifier de crime contre l'humanité ou de crime de guerre, ou en tout cas de crime contre l'humanité, oui. Ça, c'est rien. Ces massacres qui ont quand même été les plus grands massacres collectifs que la France ait connus depuis les guerres de religion.
Comme ces femmes enceintes qui ont été éventrées, noyées.
Oui, et les fœtus plantés au bout de pique. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire avant que les idées ou que les livres non conformistes d'aujourd'hui ou d'hier deviennent des banalités et des lieux communs, je dirais. On n'en est pas loin, on n'en est pas là encore, hein, loin s'en faut.
Est-ce que cela signifie, après on va aller plus dans le fond et dans votre contenu, hein, voilà, Francis Bergeron, est-ce que la morale de cette histoire est qu'il faut s'abstenir toujours de diaboliser, qu'il faut analyser parce qu'on se dit que ce qui est inacceptable aujourd'hui sera normal peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans et inversement, les choses s'inversent et qu'il faut prendre tous ces débats avec beaucoup de recul?
Non, moi je dirais qu'il faut accepter le débat.
C'est pour ça que je dis qu'il faut les prendre avec beaucoup de recul. C'est-à-dire, en fait, dans ma question, je voulais dire l'accepter et en prenant beaucoup de recul, beaucoup de tolérance, finalement, dans ce débat, on peut employer ce mot, et non pas dire il faut interdire, il n'en est pas question.
Oui, absolument. Oui, il faut être non pas complaisant, non pas. Chercher l'air du temps et essayer de s'y conformer, mais il faut avoir le courage de ses opinions, comme on dit, défendre ses valeurs, défendre ses thèmes, mais il faut accepter de débattre avec des idées, des livres, des thèmes qui ne sont pas les siens. Et je crois que c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, parce que si c'est simplement le modèle chinois ou le modèle nord-coréen où il y a une vérité et il est interdit d'en sortir, c'est l'abdication de toute liberté. Donc non, je crois qu'il faut avoir suffisamment de... Et le livre est un bon véhicule pour ça. Le livre permet de rentrer dans les subtilités des thèmes évoqués. C'est pour ça que je pense que le livre est un très bon outil de confrontation des idées et de dialogue parfois à propos de ces thèmes et de ces valeurs et de notre histoire et des grands courants de pensée et des grands courants religieux, etc.
Alors Francis Bergeron publie avec Philippe Randal, l'écrivain Francis Bergeron, donc publie avec Philippe Randal le dictionnaire commenté de livres politiquement incorrects. C'est un dictionnaire, comme son nom l'indique, vous donnez sur près de presque 1000 pages toute une liste de livres à lire, mais c'est pas simplement un catalogue, ce n'est pas un catalogue puisque vous dites bien qu'il est commenté. Qu'il est commenté, vous nous expliquez où il faut aller, ce qu'il faut choisir. Vous êtes parti avec quel état d'esprit ? De quelqu'un de complètement novice, qui n'a pas de culture politique, et vous l'orientez vers le plus facile, progressivement, non. Vers le plus difficile. Vous vous adressez quand même à des gens qui ont quand même un peu une colonne vertébrale, idéologique.
De toute façon, il y a une orientation plutôt de droite à
Oui,
ces
c'était ce que je
ouvrages.
voulais
Donc,
dire, oui.
il n'y a pas de recherche des livres politiquement incorrects de chaque époque, puisque, comme on l'a dit, l'incorrection du 19e siècle n'est pas, n'a pas la même nature et ne porte pas sur les mêmes thèmes, puisque là, ce sont plutôt des incorrections politiques, des incorrections philosophiques ou des incorrections religieuses. Ce ne sont pas les incorrections sur les mœurs ou sociétales dans cette sélection de livres. Ensuite, je me suis posé la question, quels sont les livres qui ont fait scandale à leur époque et pourquoi? Est-ce que ce scandale était justifié, était mérité? Surtout, quels sont les cas où ces livres n'auraient pas dû faire scandale, mais ont fait scandale? Je pense à certains prix Goncourt, plutôt des auteurs qui n'ont pas obtenu le prix Goncourt. Je pense par exemple à Ventila Oria, qui aurait dû avoir le prix Goncourt en 1960 pour son livre Dieu est né en exil, mais c'était un Roumain anticommuniste. L'ambassade de Roumanie s'est opposée à ce qu'il ait le Goncourt, et finalement, les jurés du Goncourt ne l'ont pas retenu. Voilà un livre qui a fait scandale, qui n'aurait pas dû faire scandale, mais voilà un livre scandaleux. Je pense aussi à l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, enfin en tout cas pour sa traduction française, les années 1973 à 1960. 75 ou 76, quelque chose comme ça. Ce livre-là, évidemment, faisait scandale en URSS, puisqu'il était même, il était interdit et il était interdit de le posséder et on se retrouvait en prison si on en assurait la diffusion. Solzhenitsyn, on connaît son histoire, il a été viré, il a été donc exilé en Occident. Ce même archipel du Goulag, ensuite, devient est publié en France. Il fait débat, il fait scandale, en tout cas dans une partie de l'opinion. Nous sommes encore à une époque où le Parti communiste représente 20% des voix aux élections. Donc ce livre-là, il fait scandale. Solzhenitsyn est traîné dans la boue par un certain nombre d'écrivains, un certain nombre de journalistes, un certain nombre de journaux. Et puis finalement, aujourd'hui, tout le monde admet que ce qui était décrit dans l'archipel du Goulag correspond parfaitement à la vérité. Alors on pourrait se dire, mais alors ce livre-là, il faut le retirer maintenant du dictionnaire des livres politiquement incorrects. Sauf qu'aujourd'hui, on voit par exemple un collège de Vendée, je crois, qui s'appelait le collège Solzhenitsyn, et aujourd'hui on veut le débaptiser à cause de Poutine, ce qui est un non-sens historique, ce qui n'a vraiment, qui est une aberration absolument complète. C'est comme si on interdisait Thomas Mann ou des gens comme ça au motif qu'il y a eu le nazisme en Allemagne. Donc on voit bien que et finalement cet écrivain devenu correct par le fait qu'il se contentait de raconter quelque chose qui par la suite s'est révélé parfaitement fondé, parfaitement exact. Eh bien, il devient incorrect parce que je dirais, les événements géopolitiques qui se déroulent 40 ans plus tard ou 50 ans plus tard ou par rapport au Goulag, on peut même dire presque 100 ans plus tard. Eh bien, ces événements-là sont analysés maintenant avec de nouvelles formes de lunettes, en quelque sorte. Et on veut faire interdire Solzhenitsyn comme on veut réécrire Dostoïevski, comme on veut empêcher que Tchaïkovski soit joué dans les salles de concert. Donc on voit que l'incorrection, elle peut évoluer, mais elle évolue je dirais, sous le coup de gens totalement incultes et qui se font un malin plaisir à mélanger les genres. Moi, je pense qu'on peut être un grand écrivain sans être un homme de droite. Je pense qu'on peut être un grand peintre sans être quelqu'un qui a élevé correctement ses enfants. On peut être je pense à quelqu'un comme Louis-Ferdinand Céline, où beaucoup de ses livres ont fait scandale. Je dirais même le personnage a fait scandale, mais je crois que on ne peut pas ne pas distinguer l'écrivain et l'homme. On sait que l'homme était très contestable sur certains plans, et en plus il avait l'écriture méchante souvent, y compris à l'égard de ceux qui voulaient défendre sa mémoire, comme ou le défendre, comme Milton Hindus ou des gens comme ça. Il pouvait être très très rosse, très méchant, très injuste, mais il n'empêche que c'est un écrivain qui fait certes scandale, donc qui est par certains côtés toujours politiquement incorrect, mais enfin, et en même temps, il est tellement immense que il est aujourd'hui enseigné un peu partout, reconnu comme l'un des deux ou trois grands auteurs du XXe siècle français. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que on distingue l'homme et l'œuvre. On distingue, on peut trouver chez des écrivains ou des romanciers ou des journalistes, des intellectuels, on peut trouver le meilleur et le plus mauvais, et le plus intéressant et le moins exploitable. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la littérature et dans les livres.
Alors, Francis Bergeron, je voulais terminer avec cette dernière question. Politiquement incorrect ne signifie pas marginal. Ça signifie pas livres qui ont été cachés, qui sont sortis dans la confidentialité, qu'on s'échange dans le plus grand secret. Parce que dans ces livres politiquement incorrects, vous avez des énormes succès de librairie. Ça va de Tintin au pays des Soviets, oui, au camp, oui, des saints de Jean Raspail, oui, ou au retournement de Vladimir Volkov.
Oui, oui, oui.
Donc
oui,
ça
oui,
veut,
oui.
Voilà, attention, il faut pas croire que c'est marginal. Non. Il y a eu des succès énormes de librairie.
Oui, non mais c'est une très bonne remarque. Il y a effectivement des livres marginaux qui sont intéressants parce qu'ils étaient politiquement incorrects, mais en fait il y en a assez peu. Ce qui est intéressant, c'est effectivement le cas de Tintin au pays des Soviets. C'est très symptomatique. C'est Hergé lui-même qui s'est auto-censuré pendant 40 ans parce que il avait peur du communisme, il avait peur des réactions de la gauche belge, et que son Tintin, son personnage, enfin ce qu'il faisait vivre, soit carrément tricard, interdit, parce que le premier de ses albums l'emmène au pays des Soviets, donc et c'est un album très très anticommuniste. Donc et en même temps, donc ce livre a eu du succès quand il est sorti, mais ensuite pendant 40 ans on l'a cherché et on ne le trouvait pas, ce qui explique d'ailleurs que les éditions originales de Tintin au pays des Soviets valent 10 à 20 000 euros sur le en salle des ventes ou chez les bibliophiles. Mais si on prend le deuxième exemple que vous avez cité, c'est-à-dire Jean Raspail, Le camp des saints, c'est un livre qui est constamment réédité. C'est un livre qui a eu un succès énorme, mais en même temps, l'éditeur se croit obligé de mettre des réserves ou de dire attention, il faut le lire, mais on peut ne pas être d'accord. Bien sûr qu'on peut ne pas être d'accord avec un auteur, un livre. Il n'empêche que à une époque où maintenant on commence à parler de grands remplacements, il est certain que le camp des saints est un livre tout à fait prémonitoire et sa vie n'est certainement pas terminée. Quant au retournement de Vladimir Volkov, c'est un petit bijou, c'est une sorte de roman d'espionnage ou policier d'espionnage, si on veut, où le héros dissimule derrière un communisme de façade, dissimule un patriotisme et une passion pour l'Église orthodoxe, etc. Et ce livre-là, c'est celui qui a révélé Volkov. Il a été plus ou moins bien accueilli, mais il a été accueilli comme une espèce de fantaisie, comme un ouvrage sans autre valeur que littéraire. Or, il se trouve qu'après, on a connu ce que l'on sait sur l'évolution de la Russie, et c'est bien le schéma. Je parle de la Russie jusqu'à l'affaire ukrainienne, hein, avant l'affaire ukrainienne. C'est bien le schéma qu'a connu le schéma de décommunisation de la Russie. C'est celui qui est qui nous a été raconté par Volkov en quelque sorte. Mais il n'empêche que Volkov, qui a eu par exemple une très bonne critique dans Le Nouvel Observateur, qui est un hebdomadaire de gauche, Volkov était assez critique, ou plus exactement, il était tricard. Enfin, on ne parlait pas des livres de Volkov dans l'Humanité ou dans ce genre de publication, parce que il avait évoqué un schéma de sortie du communisme qui paraissait totalement improbable et pas souhaitable par ces journaux-là. Or, c'était Volkov qui avait raison. Donc aujourd'hui, Le Retournement n'est plus un livre scandaleux ou un livre politiquement incorrect, sauf que avec l'histoire de l'Ukraine, on nous fait maintenant cet amalgame entre les anticommunistes du passé et le nationalisme très contestable de la Russie, confronté d'ailleurs à un autre nationalisme qui est celui de l'Ukraine. Mais ce sont des aberrations historiques, quoi. Ça n'a pas beaucoup de sens de faire ces comparaisons.
Merci. On connaissait bien votre sujet. C'est passionnant, Francis Bergeron. C'est un réel plaisir de vous avoir, Francis Bergeron. Vous publiez avec Philippe Randa le dictionnaire commenté de livres politiquement incorrects. On va mettre le lien sur Internet vers votre éditeur. On peut notamment le trouver via le site francefidiffusion.com, via les éditions du Alpha, etc. C'est une nouvelle version, voilà, de Francis Bergeron et de Philippe Randa, ce dictionnaire commenté de livres politiquement incorrects.
Merci Yannick, Francis Bergeron. Et merci Yannick Curien de cet entretien.